Sud Radio, parlons immo, Sylvain Lévy-Valency.
Votre rendez-vous 100% immobilier pour l'année 2025 avec le fondateur de Radio Immo. Bonne année Sylvain Lévy-Valency.
Bonjour Jean-Marie, bonne année, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver avec votre équipe. On va parler de logement aujourd'hui, évidemment, comme chaque samedi sur Sud Radio jusqu'à 10h au programme.
Au programme, on va parler aussi des prix. On va faire un focus en début d'année 2025. Est-ce que le marché reprend? Quelles sont les perspectives? C'est ce que nous allons voir avec Charles Marinakis, le président de Century 21 France.
Absolument, on va répondre aux questions de nos auditeurs sur le répondeur de 0826 300 300.
Absolument, on va parler évidemment des prix et des problématiques qui sont liées aux problématiques des Français. On va parler également de la rénovation énergétique avec Laurent Permas, ses focus sur les certificats d'économie d'énergie. Et enfin Jean-Marie, comme d'habitude, on va faire le tour de France. Je vous emmène à Vichy et ensuite dans la perfide Albion, on va aller du côté de Bristol.
Le tour de France dans la perfide Albion ?
Là par exemple.
Ah oui, c'est joliment dit en tout cas. À vélo, bah écoutez, bon courage. J'espère que c'est un pédalo plutôt pour vous. Quoi qu'il en soit, il est 9h21 sur Sud Radio. Comme chaque samedi, on commence par les infos de la semaine à retenir avec Bérénice.
Sud Radio, parlons immo. Sylvain Lévy-Valency.
Et Bérénice de Villefloriot. Donc, bonjour Bérénice.
Bonjour Jean-Marie, bonne année.
Bonne année.
Bonjour Bérénice, bonne année Bérénice. Bonjour. Alors, on a des infos qu'il ne fallait pas louper, surtout pas cette semaine.
Hein. Oui, alors je commence avec une note positive, ça fait du bien pour le samedi matin. Le marché immobilier reprend des couleurs, alors on en reparlera plus en détail avec notre invité du jour, Charles Marinakis, le président de Century 21 France. Globalement, pour vous donner un avant-goût, les ventes concernant l'ancien, eh bien ça repart, hein, on constate une légère reprise. Donc c'est encourageant pour 2025. Alors Charles, dans quelques instants, nous donnera les chiffres de Century 21. D'autres réseaux confirment cette reprise, par exemple La Forêt. Le réseau La Forêt confirme que les volumes des compromis de vente ont progressé pour eux de 7% en 2024 après deux années compliquées, moins 4% en 2022 et moins 16% en 2023. Orpi, le réseau Orpi confirme aussi des volumes des compromis pour eux a fait plus 12% en 2024, notamment grâce à un pic enregistré en novembre, l'un des mois les plus dynamiques de l'année.
Alors on va passer, si vous voulez bien, un bon plan, ça va nous faire du bien, que vous avez déniché cette semaine.
Oui, alors avec Grégoire, on a regardé un petit peu sur le web et on a trouvé quelque chose. Alors c'est pour vous, si vous envisagez d'acheter un logement prochainement, sachez que les banques populaires et les caisses d'épargne ont lancé mercredi une offre qui permet aux Français qui achètent une passoire thermique, donc notée F ou G par le DPE, d'avoir un taux de crédit immobilier réduit s'ils s'engagent à faire dans un délai de 40 mois des travaux de rénovation énergétique qui améliorent la note du DPE, diagnostic de performance énergétique, de 2 crans. Donc par exemple, si vous achetez un logement F, faut le passer en D.
C'est hyper intéressant ça. Et de combien on pourra baisser le taux alors?
Alors ça ira de 0,10 à 0,30 points de votre taux de crédit. Par exemple, si vous négociez au début un taux à 3,45 sur 25 ans, eh bien une fois que vous aurez fait les travaux, la banque va réajuster le taux et il peut aller jusqu'à 3,15.
Voilà, enfin une bonne nouvelle en ce début d'année. Vous allez nous parler maintenant d'une enquête qui est sortie également cette semaine.
Oui, une enquête qui est sortie dans 60 millions de consommateurs, qui a été réalisée avec l'AFOC, l'association Force Ouvrière Consommateur. Les locataires des logements sociaux se sentent délaissés. Alors les locataires, ça concerne plus de 10,2 millions d'habitants qui vivent dans les 4,8 millions de logements sociaux français. Cette étude nous apprend que beaucoup de locataires du parc social ne sont pas satisfaits de la qualité de leur logement.
Pourquoi? Pour quelle raison?
Alors il y a l'état du logement déjà, les équipements, les espaces communs, la qualité de la relation avec le bailleur. Le problème numéro un dans les logements sociaux, selon l'enquête, c'est la mauvaise isolation. Il fait trop froid l'hiver et trop chaud l'été. 6 locataires sur 10 ne sont pas satisfaits du confort thermique de leur habitation. Un quart des locataires réclament une réparation des installations, l'électricité, la plomberie, le chauffage, mais aussi les ascenseurs, bien trop souvent en panne. Beaucoup souhaitent une meilleure isolation phonique. Sur 445 locataires interrogés, 188 ont subi un trouble du voisinage ces 6 derniers mois. Donc c'est surtout des nuisances sonores. Et puis certains locataires disent également subir un voisinage insupportable, voire ressentir un sentiment d'insécurité avec des vols, des dégradations fréquentes, des trafics de stupéfiants qui ont lieu sans que les bailleurs sociaux ne s'en préoccupent.
D'ailleurs, l'Union sociale pour l'habitat, qui est présidée par Emmanuel Cosse, ancienne ministre du Logement, a été contactée pour cette étude et a répondu point par point.
Oui, alors pour le coup, l'USH a joué le jeu. L'USH, qui regroupe les 396 bailleurs sociaux du pays, a répondu, comme vous l'avez dit, à chacun des points. Concernant le premier problème, le confort thermique, l'USH a rappelé que seuls 70 000 logements sont pris en charge chaque année, alors qu'il faudrait en rénover 220 000 par an. Pour cela, les bailleurs sociaux réclament un soutien de l'État. Hein. Et pour accélérer justement ces rénovations énergétiques, rappelez-vous, l'ex-ministre du Logement, Patrice Vergriete, avait annoncé la création d'un fonds de 1,2 milliard d'euros. Vous savez qui devait être étalé sur 3 ans, hein, 400 millions d'euros par an, pour aider les bailleurs sociaux à rénover, parce qu'ils sont conscients de ce problème, les bailleurs sociaux. Eh bien, la promesse n'a pas été tenue, puisque les sommes ont été gelées, rappelez-vous, après la dissolution de l'Assemblée nationale, donc ça a fait un flop.
Merci Bérénice.
Merci à vous, on va vous retrouver dans quelques instants pour répondre aux questions de nos auditeurs, mais avant ça, on retrouve l'invité de Sylvain Lévy-Valency. On est avec le patron de Century 21.
Absolument, nous allons recevoir Charles Marinakis, président de Century 21. On va parler des prix en cette début d'année.
Est-ce que ça monte? Tout ça baisse.
Le marché repart, on va voir les prix, c'est assez mitigé d'une région à une autre.
Alors quand on dit que ça monte ou ça baisse, qu'est-ce que ça veut dire que le marché repart? C'est ce que vous nous direz, à tout de suite.
Sud Radio, parlons immo. Sylvain Lévy-Valency.
On parle logement avec Sylvain Lévy-Valency et son invité. 2025, est-ce que j'achète ou pas? Vous allez nous le dire.
C'est ce qu'on va poser comme question à Charles Marinakis, bonjour.
Bonjour Bérénice, bonjour.
Bonjour Charles.
Merci d'être avec nous, vous êtes président du réseau Century 21 France, vous êtes le réseau majeur en immobilier français, on est ravis de vous recevoir et merci de répondre à nos questions. Bon, c'est vrai que la question a été posée par notre cher Jean-Marie, les ventes immobilières repartent a priori enfin un peu à la hausse avec quasiment 2 années durant lesquelles le marché a été plutôt chahuté, plutôt tendu, c'était compliqué pour les Français d'acheter. Et là apparemment, quand on vous écoute, notre cher Bérénice a assisté à votre conférence de presse où vous étiez plutôt très positif, ça a l'air de repartir.
C'est reparti en fait, Sylvain. La réalité, la bonne nouvelle de cette deuxième partie d'année 2024, c'est que effectivement les transactions, le volume, alors quand on dit c'est reparti, pour répondre à la question de Marie, ça veut dire que le nombre de transactions est reparti. Ça,
et du coup, ça monte ou ça baisse?
Les prix, la sauvegarde du patrimoine, en fait, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, le marché des transactions dans l'ancien, en tout cas, a repris des couleurs et s'est tonifié. Grâce, il faut pas se voiler la face, à une diminution, à 3 diminutions successives des taux d'intérêt, hein, que la Banque Centrale Européenne a ajusté les taux à la baisse 3 fois à raison de 0,25. Mais pour la première fois, on ne peut pas imputer la dynamisation du marché uniquement à la baisse des taux, puisque Sylvain, les prix, et là ça répond à la question de Jean-Marie, ont baissé significativement depuis 2022. Voilà. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est retrouvé dans une configuration, une conjonction d'événements que nous n'avions pas retrouvé depuis très longtemps, c'est-à-dire à la fois des taux qui baissent et à la fois des prix qui baissent. Et c'est la conjonction des deux qui a permis au marché de redonner
de retrouver
aux Français
un peu
de couleur et puis de redonner aux Français un vrai pouvoir d'achat. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé tardivement dans l'année. J'entends que mes confrères annonçaient des mois de novembre, etc. Ils ont raison, c'est vraiment le dernier semestre et en particulier le dernier trimestre 2024 qui a redynamisé notre marché.
Alors, je voudrais qu'on creuse bien sur l'effet taux d'intérêt. Est-ce que la baisse des taux d'intérêt relance mécaniquement le marché ou pas?
Oui, c'est mécanique, ça redonne
du pouvoir d'achat. Est-ce que ça entraîne automatiquement des hausses de prix?
Non, la preuve, c'est que, vous voyez, cette fois-ci, on a réussi à contenir les prix, mais c'est à... Il va falloir vraiment qu'on réussisse cette prouesse de faire en sorte que les taux, à chaque fois qu'un taux baisse, le prix ne monte pas. Parce que si jamais cet effet mécanique, qui d'ailleurs a été extrêmement
pervers...
C'est
un peu ce qui s'est passé dans les années précédentes.
Oui, ça a été un phénomène extrêmement pervers. Je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, que contrairement aux idées reçues, la baisse des taux ne sert jamais les acquéreurs, mais tout le temps les vendeurs. C'est-à-dire que plus les taux ont baissé, plus les prix ont monté. Ça veut dire qu'en fait, cela que vous ne donniez pas à la banque, ben vous le donniez aux vendeurs. C'est-à-dire que d'un point de vue économique, c'est flat, si vous voulez.
Voilà. Bien sûr.
Alors, c'est la loi de l'offre et la demande au final.
Là, c'est plus la loi de l'offre et de la demande. Elle peut permettre d'amplifier un prix, je dirais au-delà même d'un prix de marché. Là, c'est mécanique. C'est-à-dire bien que sûr. Les Français ont bien compris que quand vous empruntiez 1,10% avec 1 500 € de mensualité, parce que en réalité, vous savez, le marché de la transaction de l'ancien, c'est une équation à 4 inconnues dont une est déjà résolue. Ça veut dire qu'en fait, on sait exactement combien vous pouvez emprunter. Vous pouvez pas emprunter plus de 35% de vos revenus nets. À partir de là, il ne reste que 3 leviers, le prix, le taux du crédit et la surface. Voilà.
Bien
et
sûr.
Donc, Le marché, Bérénice, depuis la nuit des temps, s'autorégule et les Français utilisent ces trois leviers en fonction des opportunités qui leur sont données. Et la raison pour laquelle on a trouvé de la tonicité, les crédits, le taux de crédit a baissé, le prix a baissé et les surfaces ont légèrement baissé. Voilà, donc l'agrégat des trois.
Il y a une bonne conjonction,
exactement.
Finalement.
Voilà.
Comme il y avait d'ailleurs une conjonction.
Jean-Marie, si vous voulez refaire un investissement immobilier, c'est le moment.
Je le fais tout le temps, vous me connaissez.
Mais vous allez pas nous dire le contraire.
De la même façon
que c'est factuel, ce que je veux dire, c'est chiffré. Voilà, c'est pas. Non.
Alors, on va justement bien compléter pour l'information de nos auditeurs. En concernant l'évolution du prix, il y a des fortes disparités. On est toujours d'accord là-dessus, et parce qu'il n'y a pas un marché immobilier, il y a des marchés immobiliers. Vous l'avez toujours dit d'ailleurs. Extrêmement carré, puisque parler de moyenne, finalement, ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a des villes qui peuvent changer, bien évidemment, de quartier, carrément, d'une rue à l'autre. C'est difficile, quand même, de faire une analyse globale du marché. C'est pas du tout représentatif. Quelles sont les grosses tendances que vous avez constatées, par exemple, avec des territoires dont on sait qu'ils tirent leur épingle du jeu, comme la province Alpes-Côte d'Azur. On sait que Nice a été moins impactée, que l'Arc Atlantique, effectivement, également. Quel constat vous faites, justement, dans ce paramétrage des prix, très fine, puisqu'il n'y a pas une région, il n'y a pas un agent Century 21 capable de vous restituer de la donnée.
Non, effectivement, je trouve que le fonctionnement du marché des dernières années a définitivement tordu le cou à une idée d'un prix du mètre carré moyen qui n'a plus de sens aujourd'hui. Il faut faire une radiographie région par région, et si on regarde région par région, bah, typiquement, si vous voulez, on s'aperçoit que les régions qui étaient un peu leaders à une certaine époque et qui entraînaient le marché, comme Paris, région parisienne,
ah oui, bien sûr,
c'est probablement les régions qui ont le plus souffert. Hein. À Paris, les prix ont baissé de 5%, si vous voulez, et le prix de cession moyen, parce que en fait, on a fait deux analyses. Une analyse de 2019 à 2022 pour mesurer à quel point les prix avaient augmenté dans cette période-là, dans la période post-Covid. Et puis, on a aussi regardé ce qui s'était passé depuis 2022. Voilà. Et c'est là qu'on a observé une décrue extrêmement marquée des prix, où à Paris, si vous voulez, depuis 2022, le prix du mètre carré a baissé de 10% et le prix de cession moyen a baissé de quasiment 15%. Vous voyez, donc, c'est des baisses marquées. C'est ce que j'appelle, moi, une baisse de prix. Un ajustement, c'est de 1 à 3%. Une baisse, c'est à deux chiffres. En région parisienne, c'est à peu près la même chose, sans rentrer dans le détail de tel ou tel département. Et puis en province, on observe deux phénomènes. Il y a typiquement, je reviens sur ce qu'a dit Bérénice tout à l'heure, si vous prenez la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, entre 2019 et 2022, le prix a augmenté de 27%.
C'est énorme.
Énorme. Il n'a plus augmenté que de 3% entre 2022 et 2024. Donc, vous voyez, on voit bien qu'il y a un fort ralentissement. Mais voilà typiquement une région qui, malgré un contexte extrêmement
favorable, a réussi à maintenir sa hausse.
En revanche, dans cette région-là, le volume de transactions a baissé de 20%, Sylvain, vous voyez?
Mais bien sûr.
Donc, alors, il y a toujours un dommage. À un moment donné, si vous êtes vraiment vendeur, vous acceptez d'ajuster votre prix, soit sinon vous allez vous retrouver dans le parc de ceux qui n'ont pas vendu. En Normandie, juste pour vous terminer un ou deux exemples, il y a aussi les régions qui ont corrigé des prix qui étaient trop élevés. Si on prend la Nouvelle-Aquitaine, pareil, entre 2019 et 2021.
Bordeaux,
typiquement, plus de 20% d'augmentation des prix. De mémoire, je crois que c'est 21 ou 27%. Et puis là, entre 2022 et 2024, là, les prix ont régressé de quasiment 4 à 5%, si vous voulez. Donc, il y a des régions qui ont toujours maintenu des prix, et puis il y a des régions qui ont été obligées de corriger les prix parce que ils avaient beaucoup trop augmenté dans la période post-Covid.
Alors, est-ce qu'on est toujours en crise? Ou pas?
Mais moi, j'ai jamais considéré qu'il y avait une crise de l'immobilier. J'ai toujours considéré qu'il y avait une crise du logement.
Quand on voit les chiffres de vos confrères, ou globalement des entreprises immobilières qui ont été très, très sévèrement chahutées, on peut pas dire que ce soit pas une crise immobilière.
Non, moi, je me suis jamais affolé de ça. On va finir l'année à 780 000 ventes, probablement. Ce sera moins 10 ou moins 14% de ce qui a été fait l'année dernière. Mais, vous savez, il suffisait.
Il y a quand même eu un impact économique sur les structures immobilières.
Ça, je ne dis pas le contraire. Je dis pas le contraire parce qu'on était mal habitués.
Des agences qui ont fermé, des promoteurs qui ont déposé leur bilan.
Non, les promoteurs, c'est pas pareil.
Marché du neuf, marché de l'ancien, voilà.
Moi, je distingue dans le logement trois marchés, si vous voulez, qui n'ont pas été impactés de la même manière. Un, il y a le marché du neuf, et on peut y revenir sur les promoteurs, si vous voulez, et évidemment la disparition du Pinel et le contexte tel qu'ils le subissent depuis maintenant 2 ans. Ça, c'est une chose. Ensuite, on en reviendra peut-être sur les logements classés G, le parc locatif privé qui est probablement celui qui est pris en étau entre
bien
les
sûr,
deux
absolument.
Et celui qui souffre le plus. Et puis, pour être tout à fait honnête, je considère que celui qui a souffert, mais qui quand même souffre le moins, parce qu'il est plus autonome et plus indépendant que les autres, parce que sa régulation économique, elle dépend pas du marché directement, eh bien c'est le marché des transactions de l'ancien. Donc évidemment, en tant que patron de réseau, je préférerais qu'en France, il se fasse tous les ans 1,2 million de transactions. Mais je sais que c'est pas réaliste, parce que c'est pas le niveau du marché français.
Charles Marinakis, très très rapidement, l'instabilité politique a pesé sur l'industrie immobilière. Avec Valérie Létard, a priori, l'industrie plébiscite son action. Partagez le même raisonnement ?
Pas vraiment. Moi, j'ai vu défiler 4 ministres du logement en 22 mois. Je constate que leur impact sur mon marché à moi, c'est néant.
Non, mais tout ce qui compte, c'est qu'on garde le rythme.
Au moins, c'est pas une langue
non,
de bois.
Non, mais je veux dire, il n'y a pas de raison de faire de la langue de bois.
Bien sûr.
Moi, je suis gouverné par la Banque Centrale Européenne. Ce qui a dynamisé mon marché, clairement, c'est une triple baisse des taux et la capacité des agents immobiliers et du marché à faire baisser les prix, à ajuster les prix, qui était une absolue nécessité. Ça, c'est mon constat factuel. Je n'ai absolument rien contre Mme Létard, que je ne connais pas, que je n'ai pas rencontré. Tout le monde lui donne volontiers un crédit de professionnalisme et de maîtrise de ce métier-là. Tant mieux, c'est une excellente nouvelle. Mais on peut pas dire qu'aujourd'hui les actions des ministres du logement successifs aient eu un impact, en tout cas sur mon marché. Et encore une fois, je suis probablement le marché qui est... Moi, j'attends rien en fait. Si. Surtout, touchez à rien.
Voilà.
Laissez
surtout,
nous faire.
Rien, c'est bien
on
ça.
Va se débrouiller. Moi, je demande pas de milliards, pas d'aide, pas de soutenance. Peut-être un élargissement du prêt à taux zéro. Si c'est une petite cerise sur le gâteau, on le prendra bien volontiers.
Pourquoi pas.
Mais en réalité, voilà, ça n'a pas forcément d'impact, si vous voulez, sur notre marché. En tout cas, les décisions aujourd'hui, il n'y en a pas eu de significatif qui ait impacté mon marché. Et c'est pas un procès à l'égard de Mme Létard. Encore
c'est
une
très
fois,
clair.
Je lui donne un crédit confiance, je ne la connais pas.
Voilà. Merci beaucoup, Charles Marinakis. Le conseil du jour, c'est acheter plus que jamais, hein, c'est bien ça.
Il y a une vraie conjonction, à la fois baisse des prix, baisse des taux, et ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé dans cette configuration.
Merci beaucoup. Charles Marinakis, je rappelle que vous êtes président de Century 21. Merci d'être venu sur le plateau de Parlons Immo sur Sud Radio.
Allez, à tout de suite sur Sud Radio. On va écouter les questions de nos auditeurs sur le répondeur au 0826-300-300, et puis surtout, on y répond. À tout de suite.
Sud Radio, Parlons Immo. Sylvain Lévy-Valency.
Avec toute l'équipe de Parlons Immo, jusqu'à 10h, on parle logement et puis on répond aussi aux questions que vous nous avez posées au 0826-300-300.
Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne.
Oh que oui, le logement, ça nous concerne, Sylvain.
C'est clair. Cette semaine, on a eu, comme d'habitude, souvent, vous nous posez des questions, on vous répond sur le répondeur de Sud Radio. Je rappelle que c'est le 0826-300-300. On a une question, Bérénice, qui a été posée sur une personne qui souhaite construire une maison et qui trouve des prix absolument ahurissants. Il se demande pourquoi ça augmente.
Exactement.
Ça.
Il s'appelle Mathieu. Alors, il est assez jeune. Hein. Il a 25 ans et avec sa compagne, bon, ils sont locataires actuellement, ils souhaiteraient faire construire leur maison, mais ils regardent les prix depuis quelques temps et en fait, ils trouvent les prix de plus en plus chers. Ils se demandent pourquoi ça a encore augmenté depuis le 1er janvier. Alors, pour y répondre, on a notre expert. C'est Grégory Monod, le président du Pôle Habitat de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment. Bonjour Grégory.
Bonjour.
Et bienvenue sur Sud Radio.
Merci.
Alors Grégory, première question, pourquoi le coût du neuf ne cesse d'augmenter ?
Alors, le coût du neuf ne cesse d'augmenter pour des raisons multifactorielles. La première, elle est liée à la hausse du prix des matériaux. Depuis la crise du Covid, on a eu une envolée des prix des matières premières importantes et qui ont impacté nos prix. Je rappelle juste, hein, depuis 2019, les prix ont augmenté à peu près de 25% sur nos coûts de production. Donc, qui ont été répercutés sur les prix de vente. Forcément, les coûts augmentent.
Oui, parce que vous me disiez hors antenne qu'on s'était aperçu pendant le confinement qu'en fait, que toutes les matières premières venaient d'Ukraine, en fait, c'est ça, hein ?
Alors c'est pas tout à fait ça, mais c'est qu'en fait l'énergie, la crise de l'énergie, nos matières premières ont besoin de beaucoup d'énergie.
D'accord.
Pour être transformées. En fait, c'est la crise de l'énergie, la transformation de ces matières premières qui a fait également qu'on a eu une envolée des prix. Donc c'est vrai que ça a impacté énormément. Et puis depuis de nombreuses années, et ça continue encore depuis le 1er janvier parce que cette réglementation a évolué, on a eu une évolution de notre réglementation environnementale. On était à la RT 2012, on est passé à la RE 2020, et là on vient de franchir un nouveau seuil au 1er janvier avec la RE 2020 seuil 2025, et là aussi avec des systèmes de chauffage différents, avec beaucoup plus d'ENR, avec...
ENR, c'est les énergies renouvelables. Hein.
Énergies renouvelables, exactement, qui font que les coûts ont augmenté. Je vais vous donner un chiffre. Avant 2019, une maison individuelle moyenne en France se vendait autour des 180 000 euros TTC. aujourd'hui, hors foncier, hein, aujourd'hui on est autour des 210 000 euros.
Wow.
C'est-à-dire
wow.
que on a pris à peu près 30 000 euros pour la maison, une maison individuelle de même surface depuis la crise du Covid.
Alors justement, donc je rappelle aussi que la RE 2020, donc la réglementation environnementale, on est les meilleurs, hein, on est les meilleurs élèves, je crois, par rapport aux autres pays européens. Est-ce qu'on en fait pas trop au final ?
Ah, on en fait beaucoup. Alors vous allez me dire, c'est important d'en faire pour l'environnement. Ouais, mais... On est tous conscients aujourd'hui.
Oui.
Que les choses doivent évoluer, mais là je pense que on est vraiment au taquet du taquet. C'est-à-dire qu'à un moment il faut regarder aussi l'impact que ça a sur le côté sociétal du développement durable, parce qu'aujourd'hui des gens qui peuvent pas se loger parce que les logements sont beaucoup trop chers, on a un vrai sujet de société. Oui. Et on se retrouve avec 2 600 000 demandeurs de logements sociaux actuellement en France.
D'où la crise du logement qui parfois fait concurrence à la crise climatique.
Merci beaucoup Grégory Monod. Je rappelle que vous êtes président du pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment.
Et vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous nous laissez vos messages, pareil, au 0826 300 300, on vous y répond avec nos spécialistes.
Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne.
Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.
Et tout de suite, on parle du chantier du siècle.
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Oh que oui, c'est le chantier du siècle, éco-rénovation. On en parle avec Grégoire Daricot. Bonjour.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous et bonne année tout le monde. Alors avec nous, Laurent Permas. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Merci de nous accompagner. Vous êtes directeur de Sofinco Éco-Transition. Alors Laurent, on a plusieurs fois parlé des C2E. C2E pour certificat d'économie d'énergie. Mais on n'a jamais expliqué ce que c'était et à quoi il servait. C'est le sujet de notre chronique cette semaine. On va essayer de faire simple parce que c'est pas facile avec tout ce qui touche à la rénovation énergétique.
Vous avez raison Grégoire, et on va le simplifier justement. En fait, les C2E ont été lancés en 2005 pour favoriser justement la transition énergétique en France. C'est un dispositif qui notamment réside sur un mécanisme d'incitation privée. C'est tout simplement des acteurs de l'énergie en France qui vont atteindre un certain quota d'économie d'énergie. Et ils peuvent notamment contribuer au financement des travaux de rénovation énergétique des particuliers, mais aussi des entreprises. Et le montant de l'aide varie entre 50 et 4000 euros.
Alors si je comprends bien Laurent, c'est en fait un modèle pollueur-payeur en gros qui a été mis en place par l'État auprès donc des énergéticiens.
Exactement, c'est les énergéticiens, on va y arriver, financent les travaux en échange de certificats.
Et qui peut bénéficier de l'aide des C2E ?
Alors, toute personne qui réalise certains types de travaux en faveur notamment d'économie d'énergie, alors c'est des propriétaires, occupants, des bailleurs, des locataires, sans condition de ressources, hein, ce qui change un peu. Alors, le montant de l'aide peut varier en fonction de vos revenus. Et puis, il faut être propriétaire ou locataire d'un logement construit depuis plus de 2 ans.
Ça concerne quel type de travaux, Laurent ?
Alors là, vous avez le choix. C'est 200 types de travaux éligibles. Alors, on retrouve les rubriques classiques, hein, l'isolation, les murs, les toits, les fenêtres, le chauffage, la régulation, les thermostats, on va en parler un jour aussi, les pompes à chaleur, la production d'eau chaude, la ventilation. Alors attention, les panneaux photovoltaïques ne sont pas éligibles, juste une exception, c'est les panneaux hybrides, hein, qui produisent de l'eau chaude, sanitaire, du chauffage et d'électricité. Alors, comme il y a 200 types de travaux éligibles, le plus simple, c'est de vous faire aider et notamment appeler gratuitement un conseiller spécialisé France Rénov au 0 808 800 700, c'est gratuit, c'est l'État.
Alors ok Laurent, j'ai appelé le conseiller, je connais mes travaux à réaliser, quelle démarche je dois faire ?
Alors, premièrement, sélectionnez le fournisseur d'énergie, alors ils sont tous éligibles, faites jouer la concurrence, ensuite acceptez l'offre du fournisseur ou de son partenaire qui correspond notamment avec aux travaux. Troisièmement, sélectionnez le professionnel reconnu RGE, hein, reconnu garant de l'environnement pour la réalisation de vos travaux. Vous avez ensuite assigné le devis par le professionnel RGE, réalisez les travaux toujours par ce même professionnel et puis envoyez les pièces justificatives de vos travaux au fournisseur d'énergie avec les factures. Alors attention, si un sous-traitant réalise les travaux, vérifiez bien que son nom est mentionné sur le devis, ça c'est important.
Très important.
Et puis, là aussi, ne versez pas d'acompte avant la signature de votre contrat par le fournisseur d'énergie, sinon c'est pas possible, n'aurez pas d'aide.
Alors c'est fastidieux, mais il faut tout respecter. Et enfin, Laurent, quand est-ce que l'aide des C2E, elle est versée ?
Important. Alors, trois formes de versement. Après, Après envoi des factures et réalisation des travaux, par virement bancaire tout simplement, hein, ou chèque, elle peut être déduite de vos factures, et puis sous une autre forme, comme des bons d'achat, on le voit un peu,
des
notamment avec,
ouais,
avec la téléphonie. Donc attention, il peut y avoir de la fraude, et là en l'occurrence, l'État ne prospecte pas, et puis un rappel important, les C2E, eh bien, peuvent s'additionner avec ma prime Rénov ou d'autres primes que
et
vous
ça,
pouvez
ça
avoir.
Et ça peut servir. C'est pour ça que c'est important de le noter. Merci beaucoup, en tout cas, Grégoire Darico.
Merci, Laurent.
Et merci à vous, Laurent Pernas. On vous retrouve samedi prochain sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Allez, tout de suite, le Tour de France. On commence très rapidement par Vichy. Tiens,
voilà,
c'est dans les Vivalenciennes.
À Vichy, où nous serons bientôt, parce que nous sommes attendus par le maire de Vichy, n'est-ce pas, Grégoire?
Tout à fait. Tout à fait, Sylvain. Je vous emmène là-bas. Vous qui êtes amateur de belles choses, de bonnes choses, Sylvain, on va à Vichy. Bon, même si vous êtes en plein dry January, vous inquiétez pas, il y aura quand même des pastilles à déguster. Elles sont connues pour leurs propriétés digestives, car fabriquées à partir des eaux thermales de la ville. Trêve de plaisanterie. Moi, je vous ai dégoté un appartement de 108 mètres carrés au premier étage d'une belle résidence. Un appartement extrêmement lumineux, bien agencé, qui comprend une cuisine semi-ouverte sur un séjour, qui donne lui-même sur un balcon filant. Vous avez également deux belles chambres au calme, une salle d'eau et des WC indépendants. À noter qu'une cave vient compléter notre bien. Un bien qui est en très bon état mais qui nécessite tout de même quelques travaux pour en tirer son plein potentiel. Mais pas de travaux de rénovation énergétique, Laurent, parce que le DPE, le diagnostic de performance énergétique, il est de D, donc c'est une bonne note. Notre appartement est proposé au tarif de 218 000 euros par une très sympathique agence qui s'appelle Century 21 Francs.
Bon, merci
voilà,
beaucoup.
C'était important.
Alors, juste une petite info, il nous a dégoté un logement insolite à Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre. C'est l'ancien Boeing 727 de Pablo Escobar,
voilà,
qui a été racheté par un local et qui en a fait du logement insolite.
Oui.
Donc si on veut faire un
génial.
Donc si Jean-Marie, si vous voulez dormir dans un Boeing, c'est 900 euros la nuit à Bristol.
Oui, bien sûr,
on va
bien
économiser,
sûr.
Alors.
On rappelle, oui, c'est le Boeing du plus grand et du plus riche trafiquant de drogue de toute l'histoire de l'humanité probablement, et qui a beaucoup de sang sur les mains aussi. Enfin, ils ont transformé un Boeing en Airbnb sans les ailes, c'est bizarre quand même. Non, mais franchement,
vous avez un jacuzzi, un sauna, Jean-Marie.
Ah, c'est l'essentiel.
Avoir. Pas d'elle, mais jacuzzi.
Je préfère la côte colombienne, moi, à tout prendre. Voilà. Merci à vous tous. En tout cas, on vous retrouve samedi prochain sur Sud Radio pour un nouveau numéro de Parlons Immo. Je rappelle que cette émission est rediffusée mardi prochain à midi sur Radio Immo. Et puis, on peut la réécouter en podcast sur sudradio.fr. À bientôt.
Absolument. Merci, Jean-Marie. Bonne semaine à tous.
Sud Radio, Parlons Immo. Sylvain Lévy-Valency.